Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Philippe Auguste, le bâtisseur du royaume » est une biographie historique de Bruno Galland consacrée au règne de Philippe II de France de 1180 à 1223. L'ouvrage retrace la transformation d'un roi jeune, confronté à de puissants rivaux, en souverain capable d'affermir durablement l'autorité capétienne. Le livre ne se limite pas au récit des événements militaires ou diplomatiques, il cherche aussi à expliquer comment la personnalité du roi, son tempérament, ses crises et son évolution intérieure ont influencé ses choix politiques. Fondé sur les chroniques médiévales et les archives royales, il propose une synthèse claire et accessible du travail des historiens sur cette période décisive. Le lecteur y trouve donc à la fois une biographie, une introduction à la formation de l'État royal et une lecture concrète des mécanismes de pouvoir au Moyen-Âge. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un règne décisif pour l'agrandissement du domaine royal. Le cœur du livre est la démonstration du changement d'échelle opéré sous Philippe Auguste. À son avènement, le roi contrôle encore un domaine limité et doit composer avec des princes plus puissants que lui, notamment les Plantagenets. Bruno Galland montre comment, par une politique constante de conquête, de récupération territoriale et d'alliance, Philippe parvient à intégrer dans l'espace capétien des régions majeures comme la Normandie, l'Anjou, le Maine ou l'Auvergne. Cette évolution n'est pas présentée comme un simple succès militaire, mais comme le résultat d'une stratégie de longue durée visant à faire du roi le principal maître du royaume. L'ouvrage insiste ainsi sur la manière dont la puissance capétienne se construit concrètement par l'élargissement du domaine, la consolidation des fidélités et l'affaiblissement progressif des grands adversaires féodaux. Le règne de Philippe Auguste apparaît alors comme un moment fondateur de la monarchie française, où l'autorité royale cesse d'être fragile pour devenir dominante. Deuxièmement, la psychologie du roi comme clé d'interprétation politique. L'un des traits distinctifs du livre est son attention à la personnalité de Philippe Auguste. Galland ne présente pas un souverain abstrait, mais un homme traversé par des tensions, capable d'impulsivité, de colère, d'inquiétude et parfois de dureté. Cette approche permet de relier directement la psychologie du roi à ses décisions. Ses brusques revirements, ses tensions conjugales, ses réactions face aux épreuves de santé et ses relations conflictuelles avec certains proches prennent un sens politique lorsqu'on les replace dans la durée du règne. Le livre souligne aussi une évolution avec l'âge. Philippe devient plus maîtrisé, plus calculateur, mieux entouré. Cette maturation n'est pas un détail biographique. Elle aide à comprendre pourquoi certaines phases du règne sont marquées par des excès, tandis que d'autres révèlent une autorité plus stable. En donnant une place centrale au tempérament royal, Bruno Galland offre une lecture humaine du pouvoir médiéval, où les choix d'État ne sont jamais séparés des fragilités personnelles du souverain. Troisièmement, les outils de la centralisation monarchique et le rôle de Paris. Le livre montre que la puissance de Philippe Auguste ne repose pas seulement sur la guerre, mais aussi sur la construction d'un appareil de gouvernement plus efficace. Galland explique comment le roi s'appuie sur des baillis pour représenter son autorité dans le royaume, améliorer la collecte des revenus et renforcer la présence administrative de la monarchie. Cette centralisation reste encore rudimentaire au regard des États modernes, mais elle marque une étape essentielle dans la formation d'un pouvoir plus continu et plus structuré. Paris joue dans ce processus un rôle majeur. Le roi y fait édifier une enceinte et soutient le développement de l'université, ce qui renforce à la fois la sécurité, le prestige et l'attractivité de la capitale. L'ouvrage relie ainsi l'histoire politique à l'histoire urbaine et institutionnelle. L'agrandissement du royaume s'accompagne d'une mise en ordre du centre du pouvoir. Cette articulation entre territoire, finances et capital permet de comprendre pourquoi Philippe Auguste n'est pas seulement un conquérant, mais aussi un organisateur du royaume. Quatrièmement, Bouvines, les conflits européens et la consolidation de la légitimité capétienne. La bataille de Bouvines en 1214 occupe une place importante dans la logique du livre, non comme un épisode isolé, mais comme l'aboutissement d'un long rapport des forces. Galland replace cette victoire dans un ensemble plus vaste de conflits, contre les princes anglais, les grands féodaux, le pape et l'empereur germanique. Cette perspective est essentielle, car elle montre que la monarchie capétienne ne s'impose pas dans un vide politique, elle se construit dans une Europe de rivalité où les équilibres restent instables. Bouvines consacre la capacité du roi à rallier des soutiens, à résister à une coalition et à transformer une victoire militaire en avantage politique durable. Le livre insiste également sur la dimension symbolique de cet événement, qui renforce la légitimité de la couronne et confirme la place de Philippe comme souverain de premier plan. En traitant Bouvines comme un moment de consolidation, plutôt que comme un mythe national figé, l'ouvrage garde une lecture historique précise et évite les rouissations simplificatrices. En dernier lieu, Une biographie fondée sur les sources médiévales et pensée pour être accessible, Bruno Galland adopte une méthode de biographie narrative mais solidement documentée. L'ouvrage s'appuie sur les registres de la chancellerie royale, les chroniques de Rigord et de Guillaume le Breton, ainsi que sur les acquis de l'historiographie moderne. Cette base documentaire donne au récit une forte crédibilité, tout en permettant un style clair et chronologique. Le choix n'est pas de produire une démonstration savante très technique, mais de rendre intelligible un règne complexe pour un public large. C'est précisément ce qui distingue le livre de travaux plus massifs et plus spécialisés. Il ne cherche pas à révolutionner l'étude de Philippe Auguste, mais à offrir une synthèse lisible, structurée et fiable. Cette orientation pédagogique le rend utile aux étudiants, aux amateurs d'histoire médiévale et à tous ceux qui veulent comprendre comment un roi capétien a pu transformer la monarchie française. L'ouvrage se situe ainsi à la frontière entre la biographie d'initiation et l'histoire sérieuse fondée sur les sources. En conclusion, Philippe Auguste, le bâtisseur du royaume, conviendra particulièrement aux lecteurs qui cherchent une biographie historique solide sans entrer dans un appareil critique trop lourd. Il intéressera aussi bien les passionnés de Moyen-Âge que les étudiants et les lecteurs curieux de comprendre comment s'est construit le pouvoir capétien. Son principal apport est de relier en permanence les faits politiques, les conflits militaires, les réformes administratives et la psychologie du souverain. Là où d'autres ouvrages se concentrent surtout sur Bouvines ou sur la légende du grand roi, Bruno Galland propose une vision plus complète, attentive aux lenteurs du pouvoir, aux fragilités personnelles et aux ressorts institutionnels de la monarchie. Le livre se distingue donc par sa capacité à être à la fois clair, documenté et nuancé. Il offre une lecture utile pour replacer Philippe Auguste dans son siècle, comprendre la montée en puissance de la France capétienne et saisir pourquoi ce règne constitue l'un des moments décisifs de l'histoire monarchique médiévale. Si vous souhaitez soutenir Bruno Galland, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.